Vous pouvez vous asseoir. Oui, au Seigneur soit la reconnaissance, et cela de tout notre cœur, qu'il soit remercié pour le grand privilège que nous avons d'être réunis ensemble sous l'écoute de la parole et qu'il nous accorde la foi comme le dit les Écritures. Et la parole qui nous a été lue, nous devons aussi tout à l'heure directement l'observer. Mais d'abord, les salutations fraternelles, je ne sais pas où commencer et arrêter. Mais d'abord, les salutations du frère docteur Billet. Ensuite, des frères du frère Mwamba de Kolwezi, salutations de l'Amérique du Sud, salutations du Pérou, Lima, des salutations des frères de Boma, des salutations du frère Cécile, du frère Salomon de l'Irlande et du frère Sile de l'Argentine, le frère Ellis Wendel de Edmonton, le frère Ngonga envoie des salutations adressées à nous tous. Dans trois villes, dans trois pays, maintenant un programme est diffusé. Tout ce qui est prêché ici peut être là-bas dans les nations entendu. Et nous avons aussi des salutations de Nairobi, des salutations du frère Gruss de Kapstadt, des salutations de la sœur et du frère Anderson de la Nouvelle-Zélande, des salutations des frères et sœurs Cook de Mackay de l'Australie, des salutations de Nigeria, des salutations de Ndola, des salutations du frère Caleb, des salutations du Denver, Colorado, des salutations d'Abidjan, des salutations du frère Jean-Martin, des salutations de la République du Congo, du frère Joseph d'Atlanta, des salutations de l'église de Goma, oui, des salutations du frère Chikapa et de toute l'Église, des salutations du frère Étienne Genton, des salutations du frère Motika de Johannesburg, des salutations de Budapest, des salutations de Kigali, du frère Chauffeur, des salutations de Ottawa, Canada, des salutations encore du Congo, des salutations de l'Angola, de Cabinda, encore des salutations de l'Afrique du Sud, des salutations de la Roumanie, des salutations du frère Funda, des salutations du frère Katuka de Durban. Oui, nous sommes presque arrivés à la fin encore des salutations du Congo. Et ensuite, le frère Georges de Bucarest salue fraternellement. En fait, les salutations continuent ici de l'Ouganda, encore de l'Afrique. Oui, nous sommes liés avec le monde entier, avec tous ceux qui ont reçu la grâce de Dieu pour, dans ce temps, entendre et recevoir ce que le Seigneur nous a préparé. C'est vraiment la grâce dans le jour de la grâce. Reconnaître le message du salut divin, prévu pour cet laps de temps, de le croire et ainsi prendre part à ce que Dieu fait directement dans le présent. De ne pas jouer la religion, mais vraiment de trouver grâce devant Dieu, de reconnaître les promesses qu'il a données pour notre temps, de les croire et de voir leur accomplissement et de les expérimenter personnellement. Dans les deux derniers mois, j'avais eu dans les différents week-ends le grand privilège ici et là d'être, que ce soit à Bruxelles, que ce soit Paris, que ce soit Prague, que ce soit Bratislava, et ensuite maintenant aussi la Turquie. C'est vraiment merveilleux de voir de ses propres yeux ce que Dieu fait dans le présent. Nous ne pouvons pas entrer dans les détails, mais ça, nous pouvons le dire. Dieu a partout ses serviteurs qui distribuent la nourriture. Il a partout son peuple à qui une table richement garnie est tendue et que vraiment tous peuvent se nourrir, se fortifier de la manne fraîche, la parole révélée, la consommer. Et alors que nous avons aussi entendu que les pays voisins ont été inclus jusqu'à même l'Afghanistan et de l'autre côté de la Géorgie, où notre frère, il n'y a pas longtemps, il y a quelques mois, et de là-bas, il était ici, et il y a à peu près 200 qui veulent se laisser baptiser bibliquement seulement en Géorgie. Et le frère Schmitt et le frère, ou bien alors le frère Golia, peuvent bien parler de ce que Dieu fait dans ces régions, que ce soit au Ouzbékistan ou alors dans d'autres régions. Nous sommes reconnaissants à Dieu pour les différentes langues qu'il nous a données en cet endroit pour que nous puissions transmettre ce que Dieu nous a confié. Aujourd'hui, je ne dois pas manquer de saluer tous ceux qui sont ici pour la première fois ce soir, particulièrement de leur souhaiter les bienvenus. Qui est ici pour la première fois? Ici, levez-vous, s'il vous plaît, pour que nous puissions particulièrement vous souhaiter les bienvenus. Oui, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu vous bénisse. Oui, que Dieu bénisse, que le Seigneur soit remercié. Oui, oui, aussi là-bas sur le balcon, si le Seigneur vous bénisse. Oui, nous sommes reconnaissant. Et quand nous entendons qu'il y a des frères et sœurs de l'Hongrie qui viennent, vous savez que l'Hongrie est un pays avec des problèmes et il sera comme ça de passage. Les Juifs n'ont jamais été si maltraités qu'en Europe, qu'en Hongrie. Hein? Mais Dieu accorde sa grâce à tout. Nous ne pouvons pas entrer dans les détails des choses, mais le Seigneur a son peuple dans tous les peuples, dans toutes les langues, et nous pouvons lui dire merci de ce que l'appel à sortir a lieu vraiment, et que nous, ou bien alors retentit. Nous avons dans les dernières réunions, ici, dites-moi, à Istanbul, nous avons vu en Turquie que pour la première fois, après beaucoup d'années, après plusieurs années, sans avoir été appelé, après le Amen, tous sont venus devant. Je crois qu'il y avait au moins 150 personnes qui sont venus devant, jeunes et âgés, grands et petits. Et il y a une dame qui disait, je suis dans l'islam, mais je veux que vous puissiez prier pour moi. C'était vraiment merveilleux de voir comment est-ce que le Seigneur a accordé sa grâce et a béni. Et on ressentait que la parole du Seigneur a produit l'effet pour lequel elle a été envoyée. J'espère de tout mon cœur que vous vous réjouissez, vous pouvez vous réjouir avec moi. Et j'entendais justement un amen du frère Gilbert. Je crois que nous, à Paris, nous avons eu à peu près 2000 personnes qui ont été rassemblées pour écouter la parole de Dieu. C'est merveilleux. Le Seigneur appelle et maintenant toutes les invitations dans le monde entier pour faire retentir le dernier appel. Et nous sommes aussi particulièrement reconnaissants de ce que dans le monde entier, tous écoutent, peuvent voir, beaucoup écoutent, peuvent voir et être en ligne pour prendre part à ce que Dieu fait ici, dans le présent, sur terre. Et ce serait bien s'ils n'écoutaient pas seulement et qu'ils n'étaient pas, seulement en ligne, mais qu'ils puissent voir comment est-ce que l'appel à sortir et la préparation a lieu par la grâce de Dieu. Aussi, en ce qui concerne Israël et ce qui se passe avec Israël, nous n'allons pas pouvoir passer le temps là-dessus, mais nous savons tous que toutes ces choses ont été prédites à l'avance, même que Gaza n'existera plus, mais deviendra un désert. Donc, cette lignée de 53 kilomètres de longueur et quelques kilomètres de largeur, cette ligne n'existera plus, elle deviendra un désert. Mais laissons tout entre les mains de Dieu. Il faut que les choses arrivent telles qu'elles ont été prédites. Les prophéties bibliques s'accomplissent dans tous les domaines. On doit aussi penser particulièrement aussi quand il s'agit d'Israël, le peuple élu de Dieu. Mais l'élection doit être acceptée, doit être reçue. Et à l'élection s'ajoute la foi, ou bien alors va la foi et l'obéissance. Quand sans obéissance et sans foi, il n'y a pas de sens d'être élu. C'est seulement une imagination ou bien une prétention d'être élu. Si nous sommes élus, nous avons la foi et l'obéissance. Ça va à l'élection. Et j'ai lu il n'y a pas longtemps que ce soit l'explication. Que ce soit en 1896, les différentes déclarations qui ont été faites dans le déroulement des années, que ce soit en 1917, où Belfour, le ministre des Affaires étrangères en Grande-Bretagne, a fait cette déclaration que le peuple d'Israël a une maison en Palestine, donc a une cité en Palestine. Et nous allons faire en sorte que cela s'accomplira, c'est ce qu'il a dit. Et toutes ces explications aussi, durant toutes ces différentes années et âges, et il y a aussi le 14 mai 1948, alors que l'État d'Israël a été déclaré par Ben Gurion. Et alors déjà c'est accompli, cette parole, quand vous verrez que le figuier devient tendre. Alors déjà, toutes ces promesses se sont accomplies concernant Israël, que Dieu ajoutera à son peuple le reste. et les fera sortir de tous les peuples, les langues et les nations et les rassemblera. Nous avons, n'est-ce pas, les Saintes Écritures que nous n'avons pas seulement pour les lire, mais pour voir l'introduction dans le dessein du salut de notre Dieu avec tous ceux qui croient le Seigneur, qui lui font confiance et qui vraiment reçoivent chaque parole et prennent au sérieux chaque parole telle qu'elle est écrite et demeure dans la parole telle qu'elle est écrite. Et bien sûr, nous voyons aussi ce qui se passe au Vatican. Nous avons, n'est-ce pas, suivi tout la visite en Israël du pape et ensuite les deux personnalités qui sont allées au Vatican. Nous avons observé tout cela et nous avons vu et entendu ce qui a été fait, ce qui a été dit. Et ensuite, ce grand statement, en gros caractère, union dans la pluralité. Hein? Donc, tout est décoré de couleurs chrétiennes et Jean 17, n'est-ce pas, est utilisé. Mais si Jean 17 vraiment est lu avec recueillement, il y a des versets qui touchent le noyau dans Jean 17, qui vraiment nous montre ce que le Seigneur a voulu dire. Laissez-moi donner un exemple avant d'aller dans cette autre parole et lire quelques versets dans Jean chapitre 17 pour savoir à qui est-ce que le Seigneur a adressé cette parole et pas à. Pas, il n'a pas voulu parler d'une union quelconque, de pluralité parmi plusieurs religions et plusieurs peuples. Mais comme il est écrit ici dans Jean 17, au verset 6 d'abord, j'ai fait connaître ton nom, ou alors j'ai révélé ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. Pas quelqu'un de quelconque, mais mon peuple, ce que tu m'as donné, mes fils et mes filles, ils ont gardé ta parole. Et ensuite, la deuxième partie, au verset 8, et ils ont reçu et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. Pas que j'étais à côté de toi, mais que je suis sorti de toi. Et ils ont cru que tu m'as envoyé. La deuxième partie du verset 11. Père Saint, garde en ton nom ceux que tu m'as donnés, afin qu'ils soient un comme nous. Le verset 14. Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. D'abord, il dit, je leur ai révélé ton nom, fait connaître ton nom, et ensuite, je leur ai donné ta parole. Et sa parole est devenue une lumière sur notre sentier. Ensuite, verset 17. Sanctifie-les dans ta parole, ou bien par ta parole. Ta parole est la vérité. Alléluia. Amen. Ensuite, verset 18. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Ensuite, le verset 19. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ensuite, le verset 23. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un. Pas de la religion, pas une union dans la pluralité, mais moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un. Et encore au verset 26.
Verset 26.
Je leur ai fait connaître ton nom et je le leur ferai connaître. Seulement pour votre information divine, pas une union créée par l'homme, mais le peuple de Dieu est uni en Jésus-Christ, notre Seigneur, en tant qu'un peuple, par un seul esprit baptisé pour former un seul corps, abreuvé. Et disons les choses comme, comme elles sont écrites. Si par exemple il dit, je leur ai donné, révélé, fait connaître ta parole. Oui, chaque verset biblique, aussi Matthieu 28, le Seigneur nous l'a révélé. Et si nous partons, nous allons à tous les 349 communautés chrétiennes et communautés qui maintenant sont unies dans le Conseil mondial des églises, tous ont le baptême trinitaire, l'enseignement trinitaire, le baptême trinitaire, la forme trinitaire. Mais cette forme trinitaire, cette formule trinitaire n'existe pas dans la Bible et pas une unique pratique dans la Trinité existe dans la Bible. Donc ici nous voyons ce qui se passe. C'est une union qui n'a aucun fondement biblique. Elle n'est pas sous Christ, la tête, le chef de l'Église. Mais comme tous nous le savons, il faut que les choses arrivent telles qu'elles sont. Mais de l'autre côté, nous comprenons, n'est-ce pas, le sérieux de l'heure où il est dit, vous, mon peuple, sortez du milieu d'eux, séparez-vous, ne touchez à rien d'impur. Alors, je vous agréerai. Et alors, s'accomplit, alors vous serez mes fils et mes filles. Et je serai votre Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, c'est une grâce inexprimable que Dieu nous a accordée dans ce temps de reconnaître les promesses pour ce temps dans lequel nous vivons, de ce qu'il enverrait un prophète, comme cela était promis. Et j'ai pensé aussi à cela du 11 juin 1933. Il y a beaucoup d'années qui sont venues et qui sont passées, alors que le Seigneur, avec voix audible, a prononcé ces mots, tels que Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur de la première venue du Christ. C'est ainsi que tu seras envoyé avec un message qui sera précurseur du retour de Christ. Toutes ces années sont venues et sont passées. Et je pense à un jour particulier, le 28 février 1963, alors que la nuit et le nuage surnaturel est descendu et qu'il fut pris en photo par des photographes connus dans le monde entier jusqu'à donc, d'une distance de 400 miles, et que ce soit l'article dans le magazine Le Live ou bien le magazine Le Teens, où ils ont écrit un nuage inexprimable sur l'Arizona, au-dessus de la montagne. Et il a été dit à frère Branham, repars à Jeffersonville, car le temps d'ouvrir les sept sceaux est arrivé. Bien-aimés frères et sœurs, il y a eu des jours particuliers dans la vie des serviteurs de Dieu. Il y a eu des jours particuliers dans la vie d'Israël et dans la vie de l'Église et aussi dans notre temps. Encore un jour particulier, le 7 mai 1946, alors que l'ange de l'Éternel est venu dans la pièce, la lumière surnaturelle a brillé, a illuminé le sol, et l'ange éternel est sorti de cette lumière et s'est adressé à frère Branham et lui a dit, je suis envoyé à toi de la présence de Dieu pour te donner ton mandat. Et vous connaissez tous le témoignage. Il y a eu dans notre temps des jours particuliers qui étaient en relation avec le dessein du salut de notre Dieu. Et c'est pour cette raison que de tout notre cœur, nous sommes reconnaissants de pouvoir croire ce que Dieu, pour notre temps, a promis, de pouvoir le recevoir et l'accepter, de ce que le retour du Seigneur Jésus-Christ s'est rapproché et que avant son retour, le cri de réveil doit retentir. Le cri de réveil doit retentir. Et celui qui lit Matthieu 25, il arrivera à ce verset particulièrement, je pense le verset 5, où il est dit que les vierges se sont endormies tous, que ce soit qu'elles étaient vierges ou folles, tous se sont endormies. Et ensuite, le cri de réveil a retenti. Et ce cri de réveil retentit maintenant. Ce cri de réveil retentit réellement maintenant dans le monde entier. Et tous ceux qui ont une oreille pour entendre ce que l'Esprit dit à l'Église. Maintenant, il s'agit de ça. C'est ce qui est important maintenant, de prêter l'oreille à ce cri de réveil, d'écouter, de prêter l'oreille pour ne pas s'en détourner. On pourrait, n'est-ce pas, rassembler tous ces, résumer tous ces versets bibliques et dire simplement, « Oh Dieu, tu t'es donné tant d'efforts et tu nous as introduits dans ton dessein du salut. Pas à pas, tu nous as révélé ta parole et tes promesses. » Ensuite, nous avons aussi les citations de frère Branham que nous estimons tous et que nous savons que nous devons les retrouver dans les Écritures pour pouvoir à 100% être certain que nous avons bien compris que ce qu'il a été dit, vraiment, nous l'avons bien compris. Et alors, cela peut se reposer aussi au moins sur deux ou trois versets bibliques. Et vous savez à quoi est-ce que je pensais? Dans l'Ancien Testament, il y a eu l'Arche de l'Alliance, et l'Arche de l'Alliance était la chose la plus importante parce que ce que Dieu avait ordonné et ce que Dieu avait dit fut mis dans l'Arche de l'Alliance, et cette Arche de l'Alliance fut portée. Et Dieu a confirmé ce qu'il avait promis par sa grâce. Et de la même manière, c'est ce qui se passe maintenant dans notre temps, pas à l'extérieur de la parole, de croire des choses. Et nous nous sommes donné cet effort hier, et nous avons, sur un certain sujet, relu et un peu entendu plus de 300 fois, frère Branham a utilisé cette expression Urim Tumim. Vous savez ce que c'est? Je me suis lu tous ces versets bibliques écrits, Exode 25, Exode, et ensuite le chapitre 28 et Lévitique. 1 Samuel 21, Jérémie. Je me suis écrit tous ces versets bibliques où il est parlé du Urim Tumim dans l'Ancien Testament. Et vous savez ce que c'était? J'ai apporté cela avec moi. Le Urim Tumim était la lumière et le droit. La lumière et la justice et le droit. C'était pas seulement l'arche de l'Alliance. Mais Dieu le Seigneur, d'une manière surnaturelle, a confirmé par la lumière et par le droit. Si par exemple, si quelqu'un venait et racontait un songe, ou bien alors disait quelque chose, avait une révélation, si ce qu'il disait était vrai, alors la lumière, et cela d'une manière surnaturelle, a rendu témoignage venant du pectoral que Aaron portait. Car les sacrificateurs portaient le pectoral sur leur poitrine. Ils ne pouvaient pas apparaître devant le peuple de Dieu sans avoir porté le pectoral. Et c'est ainsi que frère, pendant plus de 300 fois, et pour nous, le pectoral, c'est la lumière et le droit. Pour nous, le pectoral, c'est la Bible, la parole de Dieu, c'est notre pectoral. Et la Bible doit confirmer tout ce que nous croyons, tout ce que nous disons. Tel que Dieu, dans l'Ancien Testament, d'une manière surnaturelle, a rendu témoignage de tout ce qui était vrai ou pas vrai. En ce que la lumière brillait, si la lumière là, ne brillait pas, si la lumière ne brillait pas, ça voulait dire que ce qui a été dit n'est pas vrai. Et personne n'avait besoin d'écouter cette personne. Et de la même manière, comme il a été dit, par frère Branham, la signification, plus de 300 fois, il a parlé du Urim et Thummim, plus de 300 fois, lumière et droit. Et la Bible est notre Urim et Thummim. La lumière et le droit. C'est ainsi qu'il nous est dit ce que nous avons le droit de croire. Et c'est ainsi que la lumière brille et nous pouvons marcher dans cette lumière par la grâce de Dieu. Beaucoup de choses nous ont été accordées par Dieu. Et de nous, je vous dis que beaucoup sera redemandé lors du retour du Seigneur. Revenons à ce qui nous a été lu dans 2 Thessaloniciens. Nous avons lu à partir du verset 13. Mais s'il vous plaît, soyez attentifs au contexte et de quoi il s'agit dans tout ce chapitre. Il s'agit du jour du Seigneur. Il s'agit de l'homme d'iniquité et de l'impie et de l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qui est appelé Dieu ou bien culte rendu à Dieu. On doit lire cela dans son contexte pour savoir de quoi il s'agit. Et ensuite, nous avons dans 2 Thessaloniciens, au chapitre 2, à partir, donc la dernière partie, la deuxième partie du verset 10 déjà, et parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Et donc, il lit la deuxième partie du verset 10. L'amour de la vérité pour être sauvé. Ainsi aussi dans, parce qu'ils n'ont pas aimé la parole, l'amour pour la vérité. Ils n'ont pas laissé le Seigneur leur parler. Ils n'ont pas respecté sa parole. Ils n'ont pas reçu sa parole. Ils n'ont pas cru sa parole. Aussi, donc, c'est pour cette raison que Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Bien-aimés frères et sœurs, c'est vraiment important. Dieu nous a accordé la lumière et il a séparé la lumière des ténèbres. Il a séparé la lumière du mensonge. Et c'est pour cette raison que c'est très important pour nous. Tous les autres peuvent marcher dans leur propre chemin, croire ce qu'ils croient. Mais pour nous, nous qui sommes revenus à la parole originale, nous croyons de tout notre cœur ce que les Écritures déclarent et tel que les Écritures le déclarent. Ensuite suit le verset 12, s'ajoute le verset 12, « Afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. » Et c'est après cela que suit, n'est-ce pas, ce verset merveilleux que nous avons lu, le verset 13. Pour nous, d'un côté d'abord, tous ceux qui n'ont pas reçu la vérité, qui n'ont pas eu l'amour pour la vérité, qui ont même pris plaisir à l'injustice, soient condamnés, et ensuite, cela adressé à nous, pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu. Pour quelle raison? Quel est notre devoir principal? Pas seulement de prêcher la parole, mais de rendre grâce, continuellement grâce à Dieu pour tous ceux qui ont cru la prédication. Continuellement grâce à Dieu pour tous ceux qui ont cru la prédication. Et ensuite, la parole aussi produit l'effet pour lequel elle est envoyée à ceux qui la croient. Ensuite, ici, il est écrit « Parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. » Vous connaîtrez la vérité, vous reconnaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Chaque sujet biblique, et disons cela très clairement, cela commence avec la divinité. Je le mentionne encore une fois. Tous ces 349 communautés ont seulement pris le premier paragraphe en commun dans leur confusion de foi. Mais tous les autres se diffèrent et encore une fois se diffèrent. Mais ils ont en commun seulement le premier paragraphe dans leur confusion de foi. Mais la foi en la Trinité et la foi au baptême trinitaire, ces deux choses-là, ils l'ont tous en commun sans considérer où et qui est-ce qu'ils sont. Ils ont tous ces deux points en commun. Et c'est justement ces deux points-là, c'est justement les plus importants. Nous devons savoir que Jésus-Christ est Dieu lui-même, manifesté dans la chair, justifié en esprit, prêché parmi les nations, reçu dans la gloire. Bien sûr, dans son humanité, il devait être tout. Il devait être l'agneau de Dieu. Il devait devenir médiateur, avocat. Il devait être tout en tous pour tous. Mais quand la fin viendra, Dieu sera de nouveau toutes choses en tout. Mais je le mentionne seulement que ces choses fondamentales-là, ils les ont tous en commun. Et cette base-là qu'ils ont en commun n'est pas vraie. Elle est fondée sur du sable mouvant, pas sur la révélation de Jésus-Christ. On peut même se décorer de versets bibliques de la tête aux pieds. Cela restera toujours un mensonge malgré la décoration de versets bibliques. C'est peut-être la raison qu'on doit dire quelle grâce de croire comme nos frères ont cru dans l'église primitive. Et ça, c'était aussi le message, et ça, c'est le message de l'heure. De revenir au commencement, de repartir, de revenir à l'enseignement des apôtres, de revenir au fondement original de revenir et encore une fois de revenir. Et c'est pour cette raison que nous sommes de tout notre cœur reconnaissants à Dieu de ce que nous avons eu la grâce de reconnaître l'heure de la visitation divine dans notre temps et de savoir que c'est Dieu qui l'avait promis, disant « Je vous envoie le prophète Élie avant que le jour terrible et redoutable de l'Éternel vienne. » Et il l'a accompli. Pour quelle raison? Pour quelle raison? Pour ramener le cœur des enfants de Dieu à la foi des pères. Des pères, ça, c'est l'objectif, c'est la promesse. C'est pour cette raison que nous devons revenir à la parole. Aucune révélation qui vient de Dieu est à l'extérieur des Écritures. Tout ce qui vient de Dieu reste dans le cadre des Écritures. Et la semaine dernière, je me suis encore donné cet effort. Et dans les deux dernières lettres scolaires, j'ai encore relu ce qui a été écrit, parce que beaucoup de frères disent qu'ils croient le message et ils ont malgré tout les sept tonnerres comme enseignement, qui sont tous différents. Je crois qu'il y a à peu près neuf révélations, bien interprétations des sept tonnerres. Mais ici, je me suis encore une fois relu, j'ai écrit dans la lettre circulaire de mars 2013, j'ai relu encore la citation de Frère Branham, alors que quelqu'un vint à Frère Branham et lui disait, si la voix des sept tonnerres retentit, ce sera quelque chose qui n'est pas écrit dans la Bible, et vous pouvez tous relire ce paragraphe de la lettre scolaire de mars 2013, mais je lis encore deux, trois phrases. Citation. Les sept sceaux ont révélé ce que c'est que les sept tonnerres. Et ici, il faut qu'il soit dit, comme souvent je l'ai fait, que directement, alors que Frère Branham vint à cette montagne, il y a eu sept détonations puissantes qui ont retenti. Et toute la région a tremblé. C'est peut-être raison que Frère Branham toujours de nouveau faisait mention de cette détonation-là. Et il dit encore, c'est toujours la parole. C'est toujours la parole. Et les sept sceaux ont donné la révélation sur ce que c'était. C'est toujours la parole. Vous ne devez jamais aller au-delà de ce qui est écrit. L'Esprit de Dieu restera toujours dans le cadre de la parole. Il ne sortira jamais des Écritures. Il ne sortira jamais des Écritures. Ce sera toujours, si ça vient de Dieu, l'Esprit de Dieu, lui, reste toujours avec sa parole. Il demeure toujours avec les Écritures. Cela est à lire à la page 17 en allemand, la lettre scolaire de mars 2013. Pourquoi est-ce que nous devons toujours répéter ces choses? Et je vais maintenant encore le dire à la racine, parce qu'il y a beaucoup de doctrines, d'enseignements qui ne sont pas bibliques, et qui sont à l'extérieur du message et qui prennent leur cours. Ce sont des vents qui soufflent. Avez-vous entendu? Pas à l'intérieur du message. Toutes ces interprétations sont à l'extérieur du message. À l'intérieur du message, il n'y a que la parole de Dieu qui a le mot à dire. À l'extérieur du message, ce sont seulement... Donc, à l'intérieur du message est valable seulement ce que le Seigneur a dit dans sa parole. Et pas une unique interprétation, mais le « ainsi dit le Seigneur » de sa sainte et précieuse parole écrite. Qui dit amen à cela? Amen. Bien sûr. C'est ainsi que c'est. C'est ainsi que ces choses nous ont été transmises. Et c'est ainsi que nous le croyons de tout notre cœur. Dans l'épître aux Philippiens, l'homme de Dieu a encore écrit pour exhorter les croyants à rester fidèles à ce qu'ils ont entendu, car le Seigneur achèvera son œuvre dans les siens pour le jour du retour de Jésus-Christ. C'est ainsi que c'est écrit dans Philippiens, le premier chapitre, au verset 6. Philippiens chapitre 1, verset 6. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Le commencement doit être mais réel. Dieu doit avoir vraiment commencé son œuvre en nous. Et quand je pense à tous nos jeunes, nos enfants, nos jeunes, et aussi à tous ceux qui n'ont pas encore expérimenté une expérience du salut, sur qui l'Esprit de Dieu n'est pas encore venu pour les conduire à la repentance, car c'est ainsi que c'est écrit. Reconnaissez que l'Esprit de Dieu vous conduit à la repentance. Nous devons prêcher la repentance. Repentez-vous. Mais qui peut se repentir? Seulement celui à qui sa transgression est reconnue. Seulement celui qui reconnaît sa transgression. Seulement celui de prêcher la repentance, c'est une chose, c'est simple. Mais il faut que la prédication de la repentance produise son effet. Jean-Baptiste a prêché la repentance. Notre Seigneur a prêché la repentance. Et tous ceux qui, et tous ont confessé leurs péchés et se sont laissés baptiser. Reconnaissez que l'Esprit de Dieu vous conduit à la repentance. Bien-aimés frères et sœurs, nous ne voulons pas que aucun de ceux qui maintenant écoutent la parole reste, mais que tous puissent appartenir aux vierges sages et par l'Esprit de Dieu être convaincus de ce qui ne pourra pas se tenir devant Dieu et qu'ils puissent s'en repentir et apporter cela au Seigneur et recevoir l'expérience de leur salut et leur conviction du salut. Dire aussi vrai que le soleil brille, moi pécheur, j'ai expérimenté le pardon de mes péchés. Bien-aimés frères et sœurs, un homme qui vraiment a expérimenté le pardon de ses péchés, il peut crier de joie et exalter le Seigneur de tout son cœur. On n'a pas besoin de demander à quelqu'un, voudriez-vous s'il vous plaît prier? Non, la louange jaillit comme une source et va au trône de Dieu par reconnaissance pour ce que le Seigneur a fait. Donc, en cet endroit, ce n'est pas seulement le message qui est prêché. En cet endroit, tout le conseil, le dessein du salut de notre Dieu est prêché. Et c'est vraiment, déjà dans la première prédication, ça a été ainsi. Repentez-vous et que chacun de vous se laisse baptiser. Le baptême, la repentance a lieu avant le baptême. Qu'on puisse vraiment se frapper la poitrine et dire, « Oh, ma vie est pleine de transgressions. Je viens au Seigneur et je lui demande de me repentir. Je lui demande pardon. » Et je dis, le plus beau jour dans notre vie, c'est quand nous avons la certitude de notre foi, de notre salut. Mes péchés sont pardonnés. Je suis libre, je suis délivré. Jésus m'a accordé la vie. Je suis délivré, je suis libre. C'est un cantique. Alors, s'il vous plaît, comprenez cela de la bonne manière. Je veux retrouver tous auprès du Seigneur. Mais on ne peut pas parler de l'achèvement de l'œuvre, de la perfection, si nous n'avons pas eu un commencement avec le Seigneur. Si le Seigneur n'a pas pu commencer son œuvre, d'abord il faut que le Seigneur ait pu commencer son œuvre en nous. C'est-à-dire qu'il est écrit ici, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Donc, le commencement doit être réel, doit être vrai, authentique. Je souhaite vraiment que l'Esprit de Dieu nous saisisse tous et que tous, encore une fois, nous puissions nous repentir, nous plier devant Dieu et dire, Seigneur, ici et là, ce n'était pas comme ça aurait dû être. Fais-moi grâce et accorde-moi la délivrance. Il y a encore des fardeaux qui ici et là existent. Que nous puissions dire, Seigneur, tel que je suis, c'est ainsi que je viens. Délivre-moi entièrement. Car il est encore écrit, celui que le Fils libère, il est réellement libre. Et c'est pour cette raison que nous devons et que nous pouvons prêcher le plein salut pour que lors du retour du Seigneur, nous soyons prêts pour aller avec lui dans la gloire. Le prochain verset, le verset 10 dans Philippiens chapitre 1 nous dit ici donc, Philippiens chapitre 1, ensuite le verset 10, pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ. Parfois, nous nous tenons devant des décisions à prendre. Et alors, l'homme de Dieu ici dit, pour le discernement des choses les meilleures. Aussi, concernant les jeunes, la jeunesse, ils doivent parfois prendre des décisions pour une profession. Ils doivent prendre des décisions. Que aujourd'hui cela vous soit accordé du Seigneur dans votre cœur, pour que vous ayez du discernement dans la crainte de Dieu. Dire, bien-aimé Seigneur, décide pour moi et avec moi. Fais-moi connaître ce que toi tu décides. Accorde-moi ta grâce pour que ma décision soit dans ta volonté. Car c'est de ça qu'il s'agit maintenant, aujourd'hui, avec nous tous et en nous tous, pour le discernement des choses les meilleures. Pas seulement un peu ici et là, mais là où il s'agit d'une décision à prendre, que nous puissions consulter l'Éternel, le Seigneur, pour qu'il puisse accorder la décision qui est juste à ses yeux pour le discernement des choses les meilleures, pour pouvoir apparaître devant sa face avec reconnaissance. Et ici, Paul a encore écrit dans Philippiens, le chapitre 2, Philippiens chapitre 2, verset 16. « Haltet fest am Wort des Lebens » portant la parole de vie. Et je pourrais me glorifier au jour de Christ de n'avoir pas couru en vain ni travaillé en vain. Est-ce que vous remarquez l'importance des choses ici? L'homme de Dieu voulait prendre part à la gloire avec tous ceux avec qui il prêchait la parole, à qui il avait prêché la parole. Il voulait avec eux voir le Seigneur. Il voulait être prêt avec tous ceux qui ont entendu la parole de sa bouche. Il voulait que tous soient prêts et que ensemble avec eux, ils puissent aller au jour du Seigneur. Et que cela n'est pas notre souhait. Soyez sincères tous. Nous voulons, n'est-ce pas, que tous ceux qui sont ici rassemblés, que tous qui écoutent, que personne ne manque le jour du retour du Seigneur, que tout soit présent quand il reviendra et aille dans la gloire. Et je suis convaincu que ceci est le temps de la préparation. Et je suis convaincu que dans aucun des cœurs, il y a de la rébellion. Il y a quelque chose qui serait contre ce que nous disons. Mais que tous ont un oui, un amen à la parole, même s'ils sont faibles et qu'ils ne savent pas encore. Mais nous disons, Seigneur, je te demande, fais-moi grâce, aide-moi pour que je puisse, avec mes décisions, me tenir devant toi. Et maintenant, suit encore la chose merveilleuse au verset 13, dans Philippiens chapitre 2, verset 13. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire. C'est lui qui produit cela en vous pour que vous lui soyez agréable. Donc, ce qui est agréable à Dieu, il le produit en nous. Il le met dans notre cœur pour que nous puissions désirer cela. C'est parce qu'il a mis cela dans notre cœur. C'est peut-être maintenant que nous ressentons de désirer cela et nous désirons ces choses. C'est parce qu'il a produit cela en nous, ce qu'il veut. D'abord, il produit en nous le vouloir. Ce qui lui est agréable, il le produit en nous. Il nous accorde le vouloir et il nous accorde aussi la force pour que nous puissions le faire, le mettre en pratique et marcher dans sa volonté. Pour que nous lui soyons agréables. Dieu ne nous donne pas un joug ou bien un fardeau. Dieu ne nous rend pas esclaves et ne nous afflige pas. Dieu nous a accordé la liberté par sa grâce. Et celui qui vient dans cette liberté, il se sentira bien, car c'est ainsi que Dieu l'a déterminé pour nous tous. Résumons aujourd'hui de quoi il s'agit. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Je ne crois pas que des hommes viennent de la Roumanie, de la Suède, ou bien du fin fond de la France et de l'Italie viennent jusqu'ici entreprendre 1650 kilomètres. Seulement parce qu'ils ont trop d'argent à dépenser, ou bien alors ils savent pas quoi faire. Non. Je crois que c'est parce que Dieu a produit en eux le vouloir, le désir d'écouter la parole de Dieu. Et c'est ainsi que c'est écrit. Il enverra une faim et une soif d'écouter sa parole. Une faim pas après le pain et une soif après l'eau, mais d'écouter la parole de Dieu. C'est peut-être raison que la parole de Dieu est placée sur le chandelier, est prêchée. Et c'est peut-être raison que Dieu, dans ce temps, agit d'une manière surnaturelle en tous ceux qui reçoivent la parole. Donc, pas seulement dans l'Ancien Testament, l'Arche de l'Alliance, la parole de Dieu, dans laquelle la parole de Dieu fut mise et portée sur les épaules, mais dans le cœur. Maintenant, elle est placée dans le cœur du croyant. J'écrirai, je ferai une nouvelle alliance avec vous et je mettrai mes paroles dans vos cœurs. J'écrirai mes paroles dans vos cœurs. Et ça, c'est la grâce. Pas seulement porter l'arche de l'alliance sur les épaules, mais les paroles vivantes du Dieu vivant, les écouter, les recevoir, les croire et les recevoir révélées. Et c'est ainsi que nous sommes introduits directement dans la volonté de Dieu, placés dans la volonté de Dieu par l'écoute de sa parole que nous recevons directement. Revenons à 2 Thessaloniciens, chapitre 2, tous ceux qui n'ont pas reçu l'amour pour la vérité, tous, sans exception, vont recevoir une puissance pour croire au mensonge et seront condamnés. Ce n'est pas nous qui allons condamner. Non, ce n'est pas nous qui condamnons. Mais le Seigneur lui-même condamnera. C'est lui-même qui jugera. C'est ainsi que c'est écrit. Tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité. La vérité sur la divinité. Par exemple, vous devez vous imaginer, je me suis aussi noté cela, combien de fois il est écrit dans la Bible concernant le seul Dieu unique, concernant notre Seigneur et notre Rédempteur. Et ensuite, seulement parce qu'ils ont haï les Juifs et qu'ils les ont désignés de meurtre, d'avoir mis à mort Christ, etc. Et qu'ils ont inventé la Trinité. Mais cette Trinité-là, elle vient en fait du paganisme, elle vient des païens. J'aimerais bien vous montrer ce livre avec toutes les trinités au pluriel qui existaient. Des trinités ont existé déjà. Et ensuite, les gens là, des églises, là, au commencement du 4e siècle, ont inventé cette trinité-là parce qu'ils voulaient faire mal aux Juifs. Ils ont inventé la trinité contre les Juifs. Parce qu'ils les ont désignés de cochons et de toutes sortes de noms et de meurtriers et de criminels de Christ. Dans la Trinité, il y a tellement de malédictions qui ont été prononcées contre les Juifs et ils ont inventé ce dogme contre les Juifs. Et maintenant, tous sont dans la Trinité, alors que je le disais déjà, pas une unique fois dans la Bible, il y a une pratique qui nous est témoignée, qui aurait été faite sous la formule de la Trinité. Pas une unique. Et Matthieu 28 a été simplement mal compris de ces religieux qui n'ont même pas un appel, qui n'avaient même pas un appel, qui ne savaient même pas où Dieu habite, qui n'avaient aucune idée sur l'Ancien et le Nouveau Testament. Ils ne connaissaient pas les Écritures. C'est simplement une religion d'État qui a été inventée, formée. C'est ainsi qu'elle est restée jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à nos jours. Et soyez sincères, même toutes les églises libres, tous sont aussi dans cet enseignement trinitaire et baptême trinitaire, sont restés. Que ce soit les baptistes, les méthodistes et pentecôtistes, tous, et encore une fois, tous sont restés dans cette formule. Mais Dieu a envoyé son serviteur, le prophète, et lui a dit que toutes ces formules-là sont faites au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et sont sataniques dans les loges des francs-maçons et que tous ces trucs, la sorcellerie, toutes ces choses sont faites dans les formes, dans cette formule et que Dieu, en tant que Père au ciel, dans le Fils sur terre et dans les croyants par le Saint-Esprit, s'est manifesté Père, Fils et Saint-Esprit. Et je vous dis que personne n'a été baptisé dans la Bible dans ces titres, Père, Fils et Saint-Esprit. S'il vous plaît, tous ceux qui ne sont pas encore baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ, qu'ils saisissent cette occasion ce week-end pour se laisser baptiser. Aussi déjà, en 1948, j'avais été par le prédicateur Baptiste Richard Spreer, j'avais été baptisé trois fois. Mais au moment où j'ai entendu le prophète de Dieu prêcher, et à l'époque, et Frère Branham avait fait cette expression vraiment crue, il a dit, tous ceux qui sont baptisés dans cette formule trinitaire sont catholiques. Et cela m'a effrayé. Le frère Alfred Borg, Helmut Frank, et beaucoup sont encore ici. Tous nous sommes allés au fleuve, rapidement, tout de suite. Et chacun, nous sommes baptisés l'un l'autre. Nous sommes baptisés l'un l'autre, publiquement, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Bien, mes frères et sœurs, ceci est le temps de la décision à prendre. Pas de remettre à demain et de du temps pour réfléchir, mais de dire, Seigneur, l'arche de l'Alliance est ouverte. La parole est révélée, a été révélée. Nous devons revenir à la foi originale, telle que les apôtres et les prophètes l'avaient, aussi concernant la Trinité et la divinité. Et cela, que cela soit dit aussi, Actes chapitre 2, verset 42. Et ils demeuraient, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans les prières, dans la brisure du pain et dans la communion fraternelle. Tout doit revenir au commencement. Il n'y a pas de discussion nécessaire. Ce n'est pas nécessaire. Seulement la foi et l'obéissance à la parole de Dieu. Tout le reste, Dieu lui-même le fera avec nous et aussi par nous et accomplira toutes les promesses, car elles sont oui et amen. Et toutes les promesses vont trouver leur accomplissement en nous. Et nous passerons de la foi à la vue. Notre Dieu est un Dieu fidèle. Je vous dis, et cela au nom du Seigneur, aussi certain que Dieu nous a révélé sa parole, nous a accordé sa parole par sa grâce et nous a révélé sa parole, et aussi certain que dans la foi, nous avons reçu cette parole et que dans la foi et dans l'obéissance de la foi, nous suivons le Seigneur, nous le suivons lui. C'est aussi certain que nous allons aussi voir l'accomplissement de la dernière promesse dans notre temps. Ce que Dieu a commencé, il l'achèvera. Ça, c'est certain. Et comme nous l'avons lu dans Philippiens, il le fera pour le jour de Jésus-Christ. Et je souhaite que la cantique, la chorale chantera tout à l'heure. Oh, quel jour ce sera. Quand notre Seigneur reviendra pour nous prendre, pour nous faire sortir de ce corps et que pour toujours nous serons auprès de lui dans la gloire. Je vous lis encore cette parole que vous pouvez prendre avec vous aussi dans Philippiens du chapitre 3, verset 20. Philippiens chapitre 3, verset 20. Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Nous attendons notre sauveur, notre Seigneur Jésus-Christ. Au verset 21, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Lors du retour de notre Seigneur, avec son pouvoir, il prononcera une parole. Et tous les corps mortels vont entrer dans l'immortalité et vont rajeunir. Dieu a appelé à l'existence tout l'univers par sa parole. Il n'y avait rien qui existait. Rien. Tout était néant. Il a prononcé une parole. Il a dit. Et ce qu'il a dit s'est accompli. Il a appelé à l'existence ce qui n'existait pas. Et quand tu reviendras, il l'appellera à l'existence ce qu'il veut manifester. Et nous serons transformés à son image et nous irons à sa rencontre dans la gloire. Il n'y aura plus de maladie, il n'y aura plus de vieillesse, il n'y aura plus de douleur. Les choses anciennes seront passées pour toujours. Tout, aussi le corps, sera nouveau. Comme il est écrit ici, nous serons rendus semblables au corps de sa gloire. Lui est devenu semblable à nous pour que nous puissions devenir semblables à lui. Alors tous nous dirons, mort, où est ton aiguillon? Enfer, où est ta victoire? Gloire à Dieu qui nous a accordé la victoire par Jésus-Christ, notre Seigneur. Tout est lié à la réalité. Dieu a envoyé le message et nous avons entendu le dernier appel. Nous sommes sortis. Et ça, ce sont des heures de préparation et de tout notre cœur. Croire, être obéissant au Seigneur, croire le Seigneur, lui obéir et ainsi nous préparer dans la pratique. Car je vous dis encore une fois, s'il vous plaît, ayez un amen dans votre cœur à chaque parole de Dieu. À chaque parole de Dieu. Qu'il n'y ait aucune résistance, que vous ne ressentez aucune résistance ou bien contradiction dans votre cœur. Mais que vous soyez d'accord avec tout ce que les Écritures déclarent. Croyez comme dit les Écritures. Et vous les verrez s'accomplir dans votre vie. À lui, notre Dieu, qui s'est donné tant d'efforts pour parler avec nous. Et nous sommes aujourd'hui ici, rassemblés de l'Est et de l'Ouest, du Nord et du Sud, parce que Dieu nous a appelés et nous a déterminés à ce que le dernier message atteigne les extrémités de la terre. Que tous soient bénis du lever du soleil jusqu'à son coucher et du coucher, de son coucher jusqu'à son lever, de tous les continents, dans tous les peuples, les langues et les nations. Ceci est le plus beau âge, le plus beau temps dans toute l'histoire du salut. Et Dieu nous a donné ce privilège de reconnaître et de voir toutes ces choses de nos propres yeux et d'avoir part à cela. Il achèvera merveilleusement son œuvre pour le jour de son retour avec nous. En nous tous, avec nous tous. À lui seul l'honneur, dans toute l'éternité. Amen. Levons-nous. Je ne sais pas si la chorale pourrait aujourd'hui chanter un cantique. Chantons encore maintenant, si cela peut être ainsi, le premier cantique qui vient de cœur, pardon, dans le livret, il vient de l'Est et de l'Ouest, il vient du Sud et du Nord. Chantons, oui. Et la chorale vient maintenant, venez tous devant. Alléluia. Amen.
Chantez
encore le premier strophe et le refrain. Avez-vous encore un cantique?
Amen.
Amen. Oui.
Amen.
Amen. Amen. Amen. Maintenant, vous voulez encore chanter un cantique? Non? Je voulais en fait appeler tous devant maintenant qui veulent consacrer leur vie au Seigneur.
Et
merci, merci, on vous remercie. Merci la chorale, les chantres, bien-aimés. Cela touche mon cœur. Et je suis convaincu que ceci est le jour dans lequel Dieu nous a parlé. Et particulièrement tous les jeunes, qui est-ce que vous soyez, si vous ressentez que vous devez de manière nouvelle consacrer votre vie au Seigneur, vous pouvez maintenant venir devant et nous chantons tel que je suis. Sans rien de moi. Vous pouvez tous venir devant. Oui. Seigneur a dit de manière très claire, celui qui vient à moi, je ne le rejetterai pas. Il a dit à haute voix, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos pour vos âmes. D'une manière, il est écrit dans l'évangile de Jean, au premier chapitre, tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, tous ceux qui croient en son nom. Et vous croyez de tout votre cœur. Notre Seigneur, sur la croix à Golgotha, a donné son sang, sa vie, et cela s'est accompli. Dieu était en Christ et a réconcilié le monde avec lui-même. En pardonnant tous nos péchés, nos iniquités, nos transgressions, elles ont été portées par l'agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et ainsi c'est accompli. Et si vos péchés sont noirs comme le coin moisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'il vous plaît, croyez aujourd'hui, croyez de tout votre cœur que ceci est le jour que le Seigneur a fait pour chacun de vous et tous ceux qui vinrent à lui, il les a tous reçus et il a dit, tes péchés te sont pardonnés, repars et ne pêche plus. Croyez maintenant. Croyez maintenant. Dieu était en Christ et a réconcilié le monde avec lui-même. apporter nos fautes et nos péchés, porter nos tous nos péchés. Voici l'agneau de Dieu. Je pourrais lire beaucoup de citer beaucoup de versets bibliques. Chantons encore tel que je suis, sans rien de moi. Chacun priez, dites, Seigneur, je viens à toi, j'accepte la rédemption, j'accepte le pardon, j'accepte ce que tu m'as accordé, fais-moi grâce, pardonne-moi, agrée-moi, je veux t'appartenir, sauve mon âme, pardonne-moi. Priez ainsi, tel que Dieu le met dans votre cœur. Ceci est l'heure que le Seigneur a fait. Bien-aimé Seigneur, je te consacre tous ceux qui sont venus à toi. Agrée-les, accepte-les, accorde le pardon. Accorde la rédemption, la délivrance, la grâce et le salut. Je te remercie pour ce jour que tu as fait pour nous tous, que tu as fait pour nous tous. Je te remercie de ce que tu as pardonné tous et que tous ont reçu la réconciliation. Et que maintenant, tu leur accordes la foi. La foi absolue. Au plein pardon. À la pleine réconciliation. Et qu'il n'y a rien qui serait resté qui ne serait pas pardonné. Mais que la lettre de condamnation est déchirée. Et tous sont libres. Par ta grâce. Rachetés, pardonnés. Ils ont reçu le pardon. Bien-aimés frères et sœurs qui êtes venus ici devant et tous ceux qui écoutent, qui voient, ceci est le jour que le Seigneur a fait pour vous. C'est un commencement, c'est un nouveau commencement. Et à partir de maintenant, le Seigneur vous conduira à aller de l'avant jusqu'à que tous nous atteignions le but. Et que nous passons de la foi à la vue. Vous êtes consacrés à Dieu le Seigneur. Rachetés complètement, délivrés complètement et consacrés à Dieu. Disons encore ce que notre Seigneur a dit. Celui qui vient à moi, je ne le rejetterai pas. Il nous a agréés et acceptés. Vous pouvez le croire. Dites Amen. Amen. De tout votre cœur, dites Amen. Amen de tout votre cœur. Frère Schmitt vient et remercie encore avec nous. Grand Dieu, nous regardons à toi ensemble, en cet endroit, à cette heure, dans ta présence, Seigneur. Tu as fait retentir l'appel, Seigneur Jésus, et tu as dit de toucher à rien d'impur. Nous te remercions de ce que ta parole aujourd'hui encore est la même et qu'elle ne revient pas sans effet. Ainsi que nous te remercions en tant qu'Église, nous venons avec nos enfants à toi, que tu nous as accordé et nous incluons tous devant ta face. touche chaque cœur, comme ça a été déjà dit. À cet instant, maintenant, vous êtes consacré à Dieu, vous avez été délivré. Accorde la grâce de qu'il puisse croire cela et donne-le d'aller de l'avant sur le chemin. Je te remercie. Bénis Seigneur Jésus de la plénitude de ta grâce et accompagne-les. Éloigne tout ce qui n'est pas de toi de leur vie. Et accorde-leur la grâce que tu puisses fortifier leur foi, leur accorder la foi et la fortifier. Bénis encore la plénitude de ta grâce pour l'honneur de ton nom. Amen. Tous amen à cela. Vous savez à quoi je pense maintenant? À l'expérience merveilleuse, alors que j'avais été pris de mon corps, sorti de mon corps, et que j'ai vu l'enlèvement, j'ai été enlevé, et j'ai vu l'enlèvement, et j'ai toujours hésité. De dessiner la nouvelle Jérusalem. Et je vais vous dire aussi pourquoi. Parce qu'il est écrit, la longueur et la largeur et la hauteur sont pareilles. Mais quand maintenant j'ai entendu Frère Branham prêcher, je me suis noté la date de la prédication, il disait que la nouvelle Jérusalem n'est pas un cube. Peut-être que je n'aurais pas dû le dire. Sinon, vous allez vous faire des pensées, n'est-ce pas? Mais c'est vraiment quelque chose de glorieux et majesté. Pas comme une pyramide, pas de pointe en haut, mais ça descend. Et complètement à la fin, ça comme une courbe, comme un pavillon. Mais tout est pareil. La hauteur est pareille, la largeur est pareille et la longueur est pareille. Mais vraiment comme un pavillon. Pas une pyramide avec la pointe en haut, mais vraiment majestueux. Je l'ai vu de mes yeux, comment elle est descendue. Je l'ai vu descendre. Et ce qui est merveilleux, c'est que tous nous serons présents. Je ne peux pas être enlevé sans vous. Élie pourrait être enlevé, Enoch pourrait être enlevé, mais pas moi. Moi, je vais être enlevé avec vous. Avec vous. Amen. Cela aura lieu d'après notre foi. Dites amen tous.